Vous écoutez
RMC.
RMC Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Olivier Véran, bonjour.
Bonjour.
Ministre de la Santé, beaucoup de sujets. Nous allons revenir évidemment sur l'épidémie de Covid, mais je voudrais commencer avec cette indemnité inflation de 100 euros versée aux Français qui n'auront rien à faire, qui vont recevoir cette indemnité et qui gagnent moins de 2000 euros net par mois. 38 millions de Français, ça va coûter 3 milliards 800 millions d'euros à l'État, c'est-à-dire à nous, hein, nous Français, hein, puisque l'État c'est nous. Olivier Véran, le problème, c'est l'effet de seuil, non ? Je prends l'exemple d'une infirmière qui gagne 2100 euros, elle n'y aura pas droit.
Le revenu médian des Français, il est un peu en dessous des 2000 euros nets par mois. Ça veut dire qu'il y a un peu plus de 50% des Français qui gagnent moins de 2000 euros nets par mois. C'est ces Français qui sont le plus en difficulté aujourd'hui, avec la hausse qui est temporaire, conjoncturelle, pas structurelle, du prix de certaines matières premières, parmi lesquelles l'essence quand on conduit une voiture, mais aussi de certains aliments, etc. On le voit. C'est lié à la reprise économique.
En fait, c'est une prime inflation.
Ben, c'est une prime, pas d'inflation, c'est une prime, c'est pas une prime, oui. C'est une indemnité d'abord.
Oui. Et
c'est un coup de pouce qui permet aux Français de faire face dans une période qui est une période de reprise économique mondiale, parce que le monde s'est déconfiné, on est plutôt en sortie de crise pandémique. Donc certaines matières premières coûtent plus cher. Il est plus difficile pour les Français d'y accéder. Or, ils doivent pouvoir y accéder. On aide en priorité celles et ceux pour qui 3 euros de plus ou 4 euros de plus de dépenses par mois, ça compte dans un budget. C'est quand même 38 millions de Français. C'est une dépense qui est utile et qui est massive.
Mais avec toujours cet effet, ce plafond ou cet effet de seuil, comme on voudra.
Mais vous avez raison de dire qu'un seuil, c'est injuste.
Prends l'exemple d'un couple. Lui ou elle gagne 4500 euros, n'aura pas droit à la prime. Lui ou elle, dans le couple, gagne 1500 euros, aura droit à la prime, alors que le couple, dans sa globalité, gagne 6 000 euros.
On a souhaité individualiser cette indemnité inflation. Pour des raisons de simplicité, pour des raisons de justice aussi. Lorsqu'il y a eu des indemnités ou des primes ou des dispositifs par le passé qui tenaient compte du revenu du couple, on nous disait, mais attendez, vous ne tenez pas compte de la réalité du couple avec monsieur et madame qui n'ont pas forcément des comptes qui sont joints, etc. On a souhaité quelque chose qui soit simple, qui est versé automatiquement, qui est versé rapidement. À compter de décembre, les salariés du privé notamment le percevront. Il n'y a aucune démarche à faire. C'est non imposable. Il n'y a pas de petite ligne. Et c'est encore une fois massif, 38 millions de Français.
Et dans le couple de deux personnes, un couple, lui qui gagne 1800 et elle qui gagne 1800, les deux toucheront. Bien. Blocage des prix sur le gaz aussi en 2022. Ça avait été annoncé par le Premier ministre.
Vous voyez, Jean-Luc Bourdin, cette réactivité du gouvernement.
Oui.
Elle est indispensable dans la période. On parle de pouvoir d'achat et on en parle à juste titre, puisque à la fois c'est un enjeu majeur pour les Français. Ensuite, on n'a pas à en rougir. Le pouvoir d'achat, il a augmenté deux fois plus vite dans ce quinquennat pour les Français en général que lors du quinquennat précédent. Je sais que quand on dit ça, et donc ils disent « je ne m'en rends pas compte ». On ne peut ne pas s'en rendre compte au quotidien, on ne fait pas forcément attention à cela, et pourtant c'est un fait, ce sont des chiffres d'évaluation indépendants.
C'est pas qu'on fait pas attention, c'est qu'on voit les prix, et qu'à la fin du mois, on a des difficultés.
Mais personne ne nie qu'il existe des difficultés, encore moins le ministre des Solidarités que je suis, qui prend en charge les bénéficiaires du RSA, de l'ensemble des minima sociaux, et qui lutte activement contre la pauvreté et la misère dans notre pays. Et là, nous nous intéressons non seulement aux gens qui sont dans la grande difficulté avec cette indemnité, mais nous nous occupons aussi de la situation des classes moyennes. Parce que les classes moyennes ont eu tendance à être oubliées au cours des dernières décennies lorsqu'il y avait des dispositifs spéciaux d'action. Là, encore une fois, en prenant un revenu de 2000 euros net par mois, on prend en compte la question des classes moyennes.
Alors, puisqu'on parle de revenus, avant de parler de l'épidémie de Covid, il y a en ce moment à l'Assemblée nationale la discussion sur le budget de la sécurité sociale. Et il y a un débat intéressant concernant le congé proche aidant. Je crois que vous allez déposer un amendement permettant à celui ou celle qui veut aider un proche, malade ou âgé, de toucher le SMIC, c'est ça ?
On veut monter le niveau de rémunération pour le mettre à l'équivalent du SMIC, parce que le dispositif de congé proche aidant qui a été mis en place par ce gouvernement il y a quelques années a trouvé une partie de son public, mais on veut aller plus loin. Et les parlementaires, notamment les parlementaires des majorités, de la majorité, souhaitent pouvoir travailler pour qu'on développe davantage. Il s'agit de permettre
à des gens... Si je prends un congé, je vais toucher le SMIC. Je prends un congé pour aider un proche, vous pouvez, je vais toucher mon
L'idée
mon
de cet SMIC. Amendement, le débat n'a pas encore eu lieu, le vote n'a pas encore été fait, mais parmi les pistes de réflexion, il y a rehausser le niveau d'indemnité que vous percevez, qui vous est versé par l'État, lorsque vous ne travaillez pas quelques journées, parce que vous vous occupez d'un proche qui est malade ou en perte d'autonomie. Le dispositif, il existe dans le droit, mais le niveau d'indemnité a été jugé insuffisant au regard des besoins exprimés, donc nous souhaitons continuer à développer. Ça fait partie des mesures sociales très fortes dans ce budget de la sécurité sociale, dans lequel on trouve aussi d'autres belles mesures.
Je vais y revenir. Parlons de l'épidémie. Où en est-on ? Est-ce qu'il y a, oui ou non, une reprise de l'épidémie de Covid actuellement en France ?
Pas qu'en France, en Europe, on assiste à une tendance à la hausse.
Oui.
Petite poussée. On n'est pas dans une vague épidémique.
Tout dépend où, parce qu'en Russie, c'est une forte poussée.
De façon générale, en Europe, je veux dire, à l'ouest de l'Oural, si vous préférez, on est actuellement plutôt dans une tendance à l'augmentation, mais une augmentation qui est modérée. Il fait froid dehors, il fait plus humide, comme tous les virus respiratoires, quand il fait froid et humide, ça circule plus, et donc on s'y attendait. On est aux environs de 5000 cas par jour. Et surtout, on ne mesure pas en France encore d'impact sanitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'augmentation des hospitalisations comme l'automne dernier. Pourquoi ? Parce que la population est massivement vaccinée. Et si nous voulons éviter de reconnaître des situations comme celle de l'an dernier, si nous voulons éviter de nous mettre individuellement et collectivement en zone de risque, il faut booster le rappel de vaccination des personnes âgées et des personnes fragiles dans notre pays. Ça avance, pas suffisamment vite. Il est impératif, et je lance vraiment un appel aux Français âgés de 65 ans ou plus, ou aux Français atteints de maladies chroniques, ou aux soignants, qui sont à 6 mois de leur dernière injection, pour bénéficier d'un rappel. À nouveau, il est gratuit en centre, chez le médecin, chez le pharmacien.
On est à combien ?
On est un peu plus de 2 millions de rappels. On a monté en cadence, puisqu'on approche les 100 000 troisièmes injections par jour, ce qui est plus que ce qu'on constatait dans les semaines précédentes. On est au-dessus, en termes de dynamique, que la plupart de nos voisins, mais ça ne suffit pas. Il y a un peu plus de la moitié des 65 ans et plus vaccinables qui ont été vaccinés. Ça ne suffit pas, il faut monter.
Bien, je vais revenir sur le vaccin. 35 morts ces dernières 24 heures. 35 morts des personnes vaccinées ou pas ?
La plupart des personnes, ou la quasi-totalité des personnes qui font des formes graves, et qui sont hospitalisées, qui vont en réanimation ou qui décèdent du Covid, sont des personnes qui n'étaient pas vaccinées ou des personnes qui, vaccinés, présentaient des troubles de l'immunité qui fait que leur système immunitaire fonctionne moins bien malgré le vaccin. Le vaccin, vous savez, la plus grande étude mondiale sur l'efficacité de la vaccination, elle est française. Il faut le dire. Il faut le dire. 11 millions de vaccinés, 11 millions de non-vaccinés. Passé 50 ans, le risque d'être hospitalisé pour du Covid est réduit de 90% quand on est vacciné. Cette étude-là, elle n'est pas empirique, elle est observée en vie réelle.
Une forte reprise de l'épidémie est possible ?
Tout est possible, Jean-Jacques Bourdin. Je ne pense pas que ce soit le scénario le plus probable, mais ce que je pense ne compte pas, c'est ce qu'on observe qui compte, et c'est surtout les moyens de s'en prémunir. Et donc, nous restons extrêmement vigilants. Vous savez que nous avons adopté au Parlement un texte sur la vigilance sanitaire pour pouvoir, dans la durée, continuer de prendre des mesures nécessaires pour protéger les Français. Mais la troisième dose, le rappel de vaccination, le maintien des gestes barrières, on voit que ça s'essouffle. On va lancer une campagne nationale sur les gestes barrières à compter de la semaine prochaine. Spot TV, spot radio, etc.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez rappeler aux Français ?
Pour redire aux Français qu'il est important de faire attention, parce qu'il y a le Covid, il y a la grippe, il y a le VRS qui donne des bronchiolites chez les petits, il y a la gastro qui va arriver, et qu'il y a des moyens assez simples de réduire les risques d'être contaminés. C'est à nouveau jeter son mouchoir quand on l'a utilisé, éternuer dans son coude. Tous ces gestes
porter
qui étaient dans le quotidien des Français et qu'on a tous tendance un peu à laisser de côté quand on sent que la menace est moins présente. Parce que pour l'instant, nous ne changeons pas les règles de port de masque. Oui. Vous imaginez bien, on a posé nous-mêmes la question de se dire, est-ce que finalement, au fond, avec le niveau de circulation du virus, est-ce que le moment n'est pas venu de relâcher certaines contraintes, notamment le pass, etc. Et ce qu'on constate là, c'est que dans la période automnale et hivernale qui va suivre, c'est pas le moment de relâcher notre vigilance et les moyens de freiner le virus. En Angleterre, ils sont à 45 000, 50 000 cas par jour.
Ils s'inquiètent d'un sous-variant.
10 fois plus.
Sous-variant du Delta.
On le surveille. C'est un sous-variant Delta, le 4.2.
Oui.
Il n'a pas pour l'instant montré de signes d'inquiétude majeure, mais on surveille tout. On séquence tout. On crible. On fait des milliers et des milliers et des milliers de tests. Tout part dans les labos. On regarde l'ADN de tous les virus, de toutes les souches qui peuvent circuler. Lorsqu'on voit que ça monte dans un pays, on ferme les frontières ou alors on fait des tests à avant le départ, des tests à l'arrivée, on contrôle tout, on est dans une maîtrise qui n'est pas forcément visible au quotidien par les Français parce qu'on parle moins du Covid et c'est compréhensible dans la période. Mais sachez que notre vigilance et l'action que nous mettons au quotidien, elle n'a certainement pas diminué.
Le pass sanitaire sera-t-il abandonné le 15 novembre ?
Je vous ai répondu, Jean-Jacques Bourdin. Dès lors qu'on est plutôt dans une augmentation de la circulation du virus en ce moment et qu'on sait qu'il fait froid, dès lors qu'on voit que ça monte assez fort en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, que ça monte très fort en Europe de l'Est, là où ils sont moins vaccinés, le moment n'est sans doute pas venu de donner le sentiment que le virus ne serait plus un danger pour nous. On surveille cela.
Donc il ne sera pas abandonné le 15 novembre.
Nous aurons l'occasion de communiquer là-dessus dans de bonnes conditions. Je vous donne mon sentiment. Mon sentiment, il est qu'il n'est pas venu le moment aujourd'hui de doter des outils qui nous protègent, alors qu'on voit que malgré ces outils, le virus ne baisse plus.
Donc nous continuerons à utiliser un pass sanitaire.
Nous continuerons de maîtriser la circulation du virus par les moyens adaptés.
C'est clair. Donc nous n'allons pas abandonner le pass sanitaire le 15 novembre, disons clairement les choses. Prolongation possible d'ailleurs du pass sanitaire jusqu'au 15 juillet. Je dis bien prolongation possible.
Possible.
Ben oui, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Possible. Grande discussion à l'Assemblée nationale, ça a été très serré, dites-moi.
Oui, ça a été serré.
Vous avez frôlé la catastrophe.
Ça n'a pas été serré pour un problème d'hésitation de la majorité, mais de mobilisation très forte et à la dernière minute des oppositions. Je vais vous dire ça, Jean-Jacques Bourdin. J'ai été député et j'aime profondément la mécanique parlementaire. Oui. Je pense que chacun choisit ses combats. Mmh. Avoir des parlementaires, des oppositions qui attendent le dernier moment, au moment du vote, pour rentrer par paquet de 10, pour essayer de faire majorité, pour faire quoi ? Pour nous empêcher, si la situation sanitaire l'exigeait au cours des prochains mois, de mettre en place des mesures pour protéger les Français. Ce n'est pas mon combat. J'ai du respect pour les parlementaires, pour les opinions. Je pense que le signal envoyé à la population, qui est beaucoup plus inquiète du virus et beaucoup plus satisfaite des mesures que nous mettons en place que ce que ces parlementaires des oppositions semblent concevoir ou imaginer, je pense que ce combat-là n'était pas le combat juste à mener. Je suis content que nous ayons eu au final une majorité et effectivement, jusqu'à l'été, si besoin était, nous sommes dotés de la capacité d'actionner des outils pour protéger les Français.
Est-ce que vous allez conditionner le pass sanitaire à l'administration d'un rappel de la troisième dose ?
Ce n'est pas le cas aujourd'hui, vous le savez.
Oui, je sais aujourd'hui, mais...
Ça fait partie des réflexions que nous demandent d'avoir les scientifiques, de nous dire finalement...
Vous êtes favorable ou pas ?
D'abord, je vous fais un tout petit pitch de 30 secondes, mais passé 65 ans, l'immunité est plus fragile. Mmh. Le vaccin, il dit à votre système immunitaire, si le virus vient, tu l'empêches de rentrer. Mmh. Le système immunitaire dit OK. Puis au bout de 6 mois, le système immunitaire, il est un peu oublié. Parce que quand on est plus âgé, le système immunitaire, il est un peu plus fragile et il a un peu moins de mémoire. Le rappel, c'est dire au système immunitaire, souviens-toi au fait, c'était ça le virus, on te l'a présenté il y a 6 mois, si le virus rentre, tu ne le laisses pas rentrer. Et à nouveau, on acquiert un très haut niveau de protection. La logique du pass, c'est de dire que les gens doivent être protégés pour eux-mêmes et pour ceux qui sont autour d'eux. Dès lors qu'on considère qu'une personne fragile ne serait plus nécessairement protégée parce qu'elle n'aurait pas encore reçu de rappel, il n'est pas illogique de se poser la question de l'intégrer dans le pass sanitaire. Ce n'est pas une décision qui est prise, c'est une réflexion que nous conduisons avec les scientifiques,
vous y êtes
avec
favorable. Les médecins.
Je suis favorable à ce qu'on mène la réflexion sur ce sujet.
À ce qu'on mène la réflexion. Deux questions à propos du rappel. Les moins de 65 ans vont devoir aller aussi se faire vacciner une troisième fois ?
Pour l'instant, non. Pourquoi je vous dis pour l'instant ? En toute modestie, je vous dis ça pour l'instant, non. Parce que ce que montrent les études, c'est qu'à l'inverse des plus de 65 ans ou des gens qui ont des maladies chroniques, si vous avez 40 ans et que vous avez été vacciné il y a 6 mois, vous gardez dans les études qu'on observe niveau d'immunité. Si par contre, on se rendait compte qu'au bout de 9 mois, l'immunité chute, ou qu'à 10 mois, elle chute, ou qu'à 11 mois, elle chute, je reviendrai vous voir en vous disant, Jean-Jacques Bourdin, manifestement, on n'est plus assez protégé, il faut qu'on se revaccine. Mais pour l'instant, il n'y a qu'un pays qui le fait, c'est Israël. Les autres pays européens sont sur la ligne des agences et des autorités sanitaires européennes, il n'y a pas lieu de vacciner en dessous de 65 ans.
Passe sanitaire pour aller skier cet hiver ou pas ?
Nous verrons. Nous verrons, Jean-Jacques Bourdin. Parce qu'à nouveau, je comprends que les acteurs aient besoin de visibilité. D'ailleurs, il y a certains acteurs du monde de la montagne qui disent « Mettez-nous le pass sanitaire pour de bon, au moins on se prépare. »
Oui.
Mais à l'inverse, moi ce que je dis, et c'est à rebours du procès qui nous est intenté par les députés de l'opposition. Nous ne voulons pas mettre de mesures excessives si la situation ne l'exige pas. Nous voulons les proportionner, mais nous voulons donner de la visibilité et de la lisibilité aux acteurs, ce qui veut dire que si dans les prochaines semaines...
Nous sommes en octobre.
Mais enfin, pardonnez-moi, pour l'instant, jusqu'à la semaine dernière, ça baissait.
Oui.
Oui. Bon, bah, si ça continuait de baisser et qu'on tombait à 1000 cas par jour, un pass sanitaire pour aller skier n'aurait pas de sens. Si en revanche ça devait monter et qu'on atteignait 10, 15 000 cas par jour, probablement qu'un pass sanitaire dans les stations de ski ferait sens.
Et si ça reste
en tous les cas, nous voulons maintenir les stations ouvertes. Oui. Nous voulons que les Français puissent aller skier cette année.
Oui.
Voilà.
Bon. En Martinique. J'ai vu ça, ça m'a paru curieux tout de même. Pas de vaccination et pas de passe sanitaire pour le personnel soignant.
Ça a été démenti par la direction de l'UCSG de Martinique.
C'est faux.
C'est une note interne qui faisait part de modifications des moyens de contrôler le passe sanitaire à l'hôpital. Mais plus sérieusement, Jean-Marc Bourdin, c'est pas facile. Et moi, j'encourage les directeurs, les médecins, les préfets, les ARS dans les Antilles qui font face pour une partie de la population, à une contestation forte de la vaccination, lors même que ces territoires ont été parcourus par une vague épidémique très intense.
Passe sanitaire obligatoire pour tous les soignants. En Martinique.
Les lois de la République doivent s'appliquer sur tout le territoire de la République.
Et elles s'appliqueront sur
tout le territoire de la République. Nous tenons compte de la situation particulière aux Antilles après une vague qui a été très intense et une surcharge hospitalière très intense. Et nous l'appliquons avec parcimonie et avec méthode.
Bien. Dans les établissements scolaires, les chefs d'établissement d'une école, le principal d'un collège, le proviseur d'un lycée va pouvoir vérifier le carnet vaccinal des élèves, ce qu'il fait déjà d'ailleurs, puisqu'il y a 11 vaccins obligatoires. Mais là, concernant le Covid, il va pouvoir savoir si l'élève est vacciné ou pas vacciné, si l'élève est cas contact ou pas. C'est cela ?
Ce que nous souhaitons,
c'est ce que va permettre la loi ?
Nous souhaitons ne plus avoir besoin de fermer une classe lorsqu'il y a un enfant qui est positif au Covid. Et nous expérimentons dans plusieurs départements d'autres méthodes de gestion en cas d'apparition d'un cas positif dans une classe. Pour ce faire, les directeurs d'école, ont besoin de connaître le statut vaccinal des élèves. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ? Ils demandent aux parents. Est-ce que votre enfant est vacciné ?
Oui.
Et le monde éducatif nous a dit, c'est compliqué, ce serait plus simple si on pouvait demander. Ils n'auront pas accès au système d'information. Ils pourront demander à l'assurance maladie de leur donner le statut, et vous l'avez dit, c'est déjà le cas avec 11 autres vaccins qui sont obligatoires, pour éviter de fermer des classes. Les parlementaires l'ont voté à l'Assemblée nationale, ça n'a pas d'ailleurs fait de gros débat. Ils l'avaient déjà voté d'ailleurs il y a 3 mois.
C'est la fin du secret médical.
Et c'est pas la fin du secret médical, Jean-Jacques Bourdin, puisque dans ce cas-là, le secret médical n'existe pas avec le vaccin tétanos ou avec la rougeole.
Concernant le Covid, c'est la fin du secret médical. Concernant le Covid.
Non, Jean-Jacques Bourdin, c'est pas la fin du secret médical concernant le Covid. On ne vous dit pas si vous êtes malade, si vous avez des formes graves, si vous avez des comorbidités, si vous prenez des traitements, si vous avez vu le médecin ou si vous l'avez pas vu. On vous dit qu'une vaccination qui est nécessaire aujourd'hui a été faite ou elle n'a pas été faite, ce qui permet d'éviter de fermer des classes. On est pragmatique.
Bon.
On est pragmatique.
Les 5-12 ans. Vaccination Pfizer-BioNTech permise aux États-Unis. L'Agence européenne du médicament va travailler pendant 2 mois et rendra sa décision. Si elle dit oui, la France vaccinera les 5-12 ans ?
Effectivement, le laboratoire Pfizer a déposé une demande auprès de l'Agence du médicament européenne.
Oui, tout à fait.
Qui va pouvoir étudier en transparence les données brutes et les données détaillées et en vie réelle de cette vaccination chez les 5-11 ans. Et qui nous dira, le vaccin est autorisé ou non. Derrière, l'étape d'après, vous commencez à la connaître parce qu'on l'a fait à chaque fois. Les agences françaises du médicament, la Haute Autorité de Santé, en indépendance, nous diront, non seulement on peut le faire, mais ça vaut le coup de le faire, et pour telle et telle raison, ou à l'inverse, oui, on peut le faire, mais ça vaut pas le coup pour telle et telle raison. Et ensuite, nous prendrons la décision.
Bien, Olivier Véran, campagne de vaccination contre la grippe, c'est aujourd'hui.
Oui, je l'avais avancé.
Hein, vous l'avez avancé. Oui. 10 millions de doses, je crois.
Il y a 10 millions de doses au premier jour de la campagne de vaccination antigrippale. Le premier jour était prévu pour être mardi, donc, mais là, il y a énormément de pharmacies qui sont achalandées en vaccins. L'année dernière, souvenez-vous, d'ailleurs, vous m'aviez interrogé, dans les premiers jours, il y avait une espèce d'effet de cohue, tout le monde avait peur de manquer, et il y avait 4 millions de vaccins qui avaient été préparés dans les pharmacies. Cette année, c'est 10 millions, et il y a près de 20% de vaccins en plus contre la grippe achetés dans notre pays pour que tout le monde puisse être protégé.
Bien, aucun danger si l'on double la vaccination. Dans un bras, la grippe, et dans l'autre bras, Covid.
Ou dans les deux.
Ou dans le même bras.
Il n'y a pas de. Ce qui est important, c'est que on peut faire les deux vaccins en même temps.
On peut faire les deux vaccins.
Et beaucoup de Français attendaient de se faire vacciner contre la grippe pour avoir leur rappel. Raison pour laquelle j'ai avancé. Aussi parce que la grippe pourrait être forte cette année. Je dis bien pourrait, puisqu'on n'a pas eu de grippe l'an dernier. Et donc le niveau d'immunité populationnelle est plus bas. C'est ce qui se passe avec la bronchiolite, par exemple, chez les nourrissons. nourrissons, avec une bronchiolite qui est particulièrement forte et précoce cette année. Il y a plus de 2000 enfants déjà qui sont passés aux urgences dans notre pays pour de la bronchiolite cette année, alors que nous ne sommes même pas en novembre. Donc je le dis aux personnes âgées, aux personnes qui savent que chaque année elles sont appelées à se faire vacciner contre la grippe, protégez-vous et profitez-en si vous êtes à 6 mois de la dernière injection de Covid pour avoir les deux vaccins en même temps.
Trois dernières questions. IVG, le délai légal, sera bientôt prolongé jusqu'à 14 semaines ou pas?
En tout cas, il y a le président du groupe parlementaire En Marche a souhaité pouvoir déposer une proposition parlementaire.
Oui.
Donc nous avons examiné le contenu de cette proposition parlementaire.
Vous êtes favorable ou pas?
Je l'ai déjà dit.
Oui.
J'ai saisi le Conseil d'ailleurs consultatif national d'éthique.
Vous y êtes favorable?
Je l'ai dit que j'étais favorable.
Le président de la République est contre.
Mais je me suis forgé une conviction sur le fondement de l'avis du Conseil consultatif d'éthique, qui lorsqu'ils étaient dans
non
mon
pas
bureau.
Pas sur l'avis du président de la République.
Écoutez-moi, Jean-Luc Bourdin. Oui, quand ils étaient dans mon bureau, quand je les charge de cette mission, m'ont dit, on sait pas trop. Et quand ils sont venus me rendre leur conclusion, m'ont dit, à notre grande surprise, en fait, il faut le faire, et on est 21 sur 22 membres du CCNE à avoir voté pour. Aucun n'a voté contre, le dernier, il s'est abstenu. Sur cette base-là, je dirais que même ma conviction personnelle importerait moins. Sur cette base-là, le débat parlementaire aura lieu, nous verrons quelle sera la position du gouvernement, c'est la position du gouvernement qui compte plus que ma position.
Avant la présidentielle.
Si le président du groupe majoritaire dépose le texte et il a dit qu'il souhaitait le faire avant la présidentielle, il aura lieu. Il y a encore des milliers de femmes qui passent la frontière chaque année, parce qu'elles doivent avorter 3 jours ou 4 jours après le délai légal en France. Oui. C'est de cela dont nous devons tenir compte. Ce qui me permet aussi de rappeler que nous devons défendre le droit à l'avortement et nous devons de façon générale défendre les droits des femmes, dont on voit bien avec certains débats politiques en vigueur dans notre pays en ce moment, qui ne sont jamais acquis et jamais ancrés dans le marbre.
Alors, PMA pour toutes les femmes, conséquence, pénurie de sperme. Est-ce que l'on va rémunérer les dons de sperme?
On ne va pas rémunérer les dons de sperme. Le don dans notre pays, c'est un don, Jean-Jacques Bourdin. C'est-à-dire qu'il est gratuit, anonyme, bénévole et volontaire. Pour un organe, pour le sang, pour des gamètes. C'est aussi l'honneur du fonctionnement de notre pays qui fonctionne sur la solidarité, sur la générosité. On savait qu'il pourrait y avoir des tensions sur le sperme. C'est d'ailleurs été dit et ça n'a pas été caché dans les débats parlementaires. Nous lançons la première très grande campagne nationale en lien avec l'Agence de biomédecine pour encourager au don de sperme, au don d'ovocytes. Par ailleurs, et j'en arrêterai là, sur cette question en tout cas, sauf si vous voulez qu'on aille plus loin, enregistre un nombre de demandes élevées de PMA, plus élevées qu'attendu, ce qui est une bonne nouvelle, ce qui veut dire que le droit est devenu un droit réel. Et moi je suis touché, favorablement, quand je vois des femmes ou des couples de femmes qui me disent que désormais, elles peuvent franchir la porte d'un hôpital la tête haute, qu'elles ne se cachent pas quand elles vont en pharmacie, et voire mieux, que quand elles veulent faire une PMA et avoir un projet familial, on leur parle dans leur langue et pas en néerlandais ou en espagnol.
Alors, je termine avec une question finalement qui va boucler cette interview. On a commencé sur le pouvoir d'achat, sur les contraintes, les mutuelles. Les mutuelles vont-elles augmenter leurs tarifs?
J'ai peur qu'elles l'aient déjà annoncé par avance.
Mais oui.
Ce qui contrevient.
Fortes annonces.
Ce qui contrevient pas les mutuelles, d'ailleurs, les complémentaires santé.
Les complémentaires santé.
Ce qui contrevient au dialogue que nous avons eu avec elles, puisque il ne vous aura pas échappé que pendant la crise Covid, nous avons fait le choix de prendre en charge toutes les dépenses à 100% par l'assurance maladie. Oui. Et vous savez ce qui s'est passé? Ça a fonctionné. Oui. Les Français n'ont pas eu de reste à charge sur les tests, sur les vaccins.
Ça veut dire que les mutuelles
ils n'ont pas eu de reste à charge sur la télémédecine.
Il faut réduire l'intervention, le champ d'intervention.
Je ne dirai jamais que les mutuelles et que les complémentaires ne servent à rien. J'objective une part trop importante de coûts de gestion dans le fonctionnement des complémentaires santé. C'est 6 à 7 milliards de plus que si c'était l'assurance maladie qui se chargeait de ces soins.
C'est beaucoup d'argent.
Et les tarifs augmentent. Je souhaite que les complémentaires modèrent l'évolution de leurs tarifs.
Que pouvez-vous faire? Rien.
Il y a des réflexions, il y a des pistes de transformation qui sont possibles. Il y a un dialogue contractuel avec les complémentaires. Croyez mon engagement, il ne date pas d'aujourd'hui. Et je n'ai jamais
caché
mes convictions en la matière.
Réduire le champ d'intervention des mutuelles ou des assureurs?
L'évolution de la sécurité sociale, l'évolution de la part de l'assurance maladie, ça fait partie d'une réflexion. Il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas de programme. Invitez-moi, on pourra en parler. Il faut un peu de temps pour l'expliquer.
Élargir, ça paraît technique. Ça veut dire quoi? Élargir le champ d'intervention de la sécurité sociale.
Ça veut dire que ce qui relève de la santé serait pris en charge par l'assurance maladie au titre de la santé.
Et plus par les mutuelles.
Et ça veut dire qu'on pourrait développer, de l'autre côté, la part de prévention, d'éducation thérapeutique, nous appuyer davantage sur les complémentaires pour le numérique en santé. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. J'ai semé des petits cailloux dans la crise sanitaire. Tout a été pris en charge à 100% par l'assurance maladie et je n'ai vu personne s'en plaindre.
Oui, les frais forfaitaires à l'hôpital, par exemple, pourraient être pris en charge par la sécurité sociale. Et non pas par les mutuelles.
Je vous dis que ça fait l'objet de réflexions, de discussions et pas de programmes.
dans tous les cas,
en tout cas, c'est un sujet passionnant.
Les tarifs des mutuelles ou des assureurs vont augmenter.
Je souhaite qu'ils n'augmentent pas cette année, je le redis.
Merci Olivier Véran, 8h54, RMC, BFM TV.